The Beast Within est le second volet des aventures de Gabriel Knight, romancier américain et chasseur de fantômes à 16 heures. Dans cette nouvelle version, l'auteur Jane Jensen mélange des photographies digitalisées et des vidéos. Ce jeu, sans doute l'un des meilleurs de chez Sierra, est difficile et long. Pas moins de 6 CD composent l'aventure où vous devrez traquer un monstre responsable de nombreux crimes.
Come on.
Jesus, it's as big as my hand.
L'histoire démarre par une nouvelle. Deux loups se sont échappés du zoo de Munich.
I can't read much of it, but they give the name of the zoo.
Mais est-ce réellement un loup qui tue ainsi au cœur de la ville? Et que viennent faire ici Louis II de Bavière et son compositeur fétiche Richard Wagner? C'est en visitant un château et deux musées que vous pourrez le découvrir. À vous l'enquête policière compliquée et pleine de rebondissements. Dans votre quête, vous serez accompagné de Grace Nakamura, votre fidèle assistante. Sierra n'a pas lésiné sur les moyens. Pas moins de 70 acteurs réunis pour la circonstance et une musique symphonique qui nous rappelle les ambiances du film L'homme au masque de cire en 1953 avec Vincent Price. Si vous avez la ténacité nécessaire pour arriver à la fin du jeu, vous aurez même droit à une superbe reconstitution d'un opéra de Wagner, enregistré et dirigé par Robert Holmes, l'auteur de la musique du jeu. The Beast Within est un jeu magnifique fonctionnant sur toutes les machines à partir du 486-33. Une seule réserve, ne pas avoir peur du loup. Le retour de Terminator. Après le numéro 1, puis le numéro 2 du jeu d'action tiré du film de James Cameron, Bethesda rempile avec The Terminator Future Shock. Cette suite de la suite de la suite surpasse sans mal ses prédécesseurs. Captivant au point qu'on en oublie la faiblesse des graphismes, le jeu vous transportera dans un futur violent et sombre. Les robots tentent par tous les moyens d'éliminer de la planète toute trace de vie humaine. Par une alchimie complexe, vous vous trouverez progressivement happé par la qualité de la simulation et plongé dans un univers où l'espoir n'a pas sa place. Même si son principe le rattache à des jeux comme Doom ou Dark Forces, Terminator 3 s'en différencie fortement par son réalisme et son ambiance. On peut ainsi, d'un simple mouvement de souris, tourner la tête, la lever ou la baisser. Et cela n'a rien d'un gadget car la survie est dans l'observation. Pour s'en rendre compte, il suffit de monter en haut d'un immeuble et de regarder en bas. Si vous avez le vertige, n'en soyez pas surpris. Très réaliste, n'est-ce pas? Reste le scénario qui, au fil de missions de difficultés croissantes, vous demandera de retrouver des personnes, des codes, de dynamiter des bases ou encore de tester le tout dernier hélicoptère de combat. En plus de votre courage et vos réflexes, vous disposerez d'une panoplie d'armes, pistolets mitrailleurs légers, lance-grenades, lasers, cocktails Molotov. Pour certaines missions, des véhicules roulants ou volants sont à votre disposition. Certes, graphiquement, le jeu est loin d'égaler d'autres productions du même genre. Mais pour l'ambiance et le réalisme, on vous l'a dit, il est excellent. Bien sûr, selon la mauvaise manie des éditeurs, ce jeu a été conçu pour être utilisé sur un Pentium. En dessous, ça rame. Thank you.
l'époque où les consoles de première génération étaient mortes et celles de Sega ou Nintendo encore inconnues en Occident. Sur les Apple II, les composants permettaient des prouesses graphiques insoupçonnées. Avec une ou deux couleurs, on retournait aux sources du karaté, un sport de dépouillement et de concentration. Ah, pour cette suite très attendue, Origin a sorti l'artillerie lourde. Comme dans l'épisode précédent, le jeu mélange des séquences de combats spatiaux avec des scènes tournées dans de véritables décors et interprétées par une pléiade d'acteurs abonnés d'habitude aux superproductions hollywoodiennes. Bien sûr, Malcolm McDowell et Mark Hamill rempilent pour ce nouvel épisode.
Au début, j'étais un peu inquiet. Ils m'ont envoyé un scénario épais comme ça. Et trois mois et demi après, j'ai été ravi de revenir.
Quelle est la différence avec les épisodes précédents?
J'aime beaucoup ce projet, en particulier parce que ce n'est pas une simple copie de Wing Commander 3. La guerre avec les Kilrati est terminée et le scénario, à mon avis, est nettement plus intéressant et vraiment passionnant. Je crois que c'est un peu plus cérébral. Il y a toujours bien sûr des combats spatiaux, mais aussi des missions d'espionnage dans lesquelles, par exemple, il faut trouver l'endroit où sont détenus des otages. Ensuite, il faut aller là-bas pour les délivrer, puis les ramener.
Pour pouvoir prolonger les décors réels par surréaliser en images de synthèse, certaines scènes ont été filmées sur fond bleu, ici sur fond vert, afin d'éviter toute interférence avec les uniformes bleus des acteurs.
J'aime l'idée d'un ordinateur capable de générer des décors. Plutôt que ce qu'on pourrait penser, on pourra créer des univers entiers sans avoir à construire des décors gigantesques. Et ça, c'est très excitant.
Bref, Mark Hamill ne regrette pas d'avoir signé et le succès remporté par le jeu n'en finit pas de l'étonner.
C'est très gratifiant de voir que les gens que vous rencontrez dans la rue ou à l'aéroport réagissent aussi bien. J'ai participé à des conférences et les gens qui y venaient portaient des uniformes de Wing Commander, très réussis, parfaitement identiques au vrai, au détail près. Je leur ai demandé, mais d'où viennent ces costumes? Où les avez-vous eus? Ils m'ont répondu, on les a fait nous-mêmes. Tiens, vous entendez? C'est ça l'atmosphère d'un tournage. Excusez-les pour le bruit, mais on doit tourner une nouvelle scène et ne peuvent plus tenir.
Ne reste plus qu'à espérer que le jeu sera aussi jouable que spectaculaire. Un petit jeu comme ça, il y en avait plein sur l'Atari ST, le rival de l'Amiga. Bon, c'est vrai, le ST était un peu moins bien techniquement que le Commodore, mais ça ne l'avait pas empêché de marcher un peu mieux que lui en France et en Allemagne. Et des sociétés comme Elite ont produit une série de jeux pas tous mémorables, mais bien agréables. Là, il s'agissait de nettoyer l'écran de toutes ces bombes en forme de cerise, avant de se faire détruire par l'adversité. Les parents pouvaient croire, en rentrant dans la chambre, que c'était un jeu écolo et culturel sur les grands monuments de l'Antiquité. Alors qu'en fait, c'était ni un pervers au terrorisme. Pervers n'a pas prise de tête. Il n'y avait pas besoin d'un manuel de 100 pages pour jouer à Bomb Jack sur ST.
Non, du calme là, justement. Le golf dans les jeux vidéo, c'est tout le contraire. C'est comme un oasis au milieu du désert, comme une panne d'électricité au milieu d'un concert de Francis Lalanne. Bref, c'est un havre de paix et de calme au milieu du bruit et de la fureur. Écoutez-moi ce silence. On trouve du golf sur toutes les machines de jeu, de la Game Boy au PC, en passant par la Saturn, PlayStation ou la Mega Drive. Bien sûr, les graphismes, l'animation et le degré de simulation varient énormément d'un jeu à l'autre, mais partout, on trouve ce calme délicieux. Ce doux silence, tout juste interrompu par le chant des oiseaux, le gargouillis d'un ruisseau, le coassement des grenouilles. jusqu'aux commentaires désobligeants de l'ordinateur.
That's in the water. Need to borrow some balls?
Le système de jeu est à peu près toujours le même. Vous choisissez votre club, vous visez, et vous laissez ensuite grimper l'indicateur de puissance pour doser la force du coup. Puis, vous contrôlez l'effet que vous désirez imprimer à la balle en stoppant le curseur le plus près possible de la petite marque qui se trouve au bas de l'indicateur. Certains softs, comme Lynx sur PC, permettent même de régler le placement des pieds, l'angle de frappe du club ou la position de la balle. Bien sûr, chaque soft apporte sa petite touche d'originalité. Vous aurez parfois droit à des vidéos de présentation. Vous découvrirez des parcours très réalistes, composés de photographies, ou au contraire, des parcours imaginaires très exotiques. Vous pourrez jouer en compagnie des plus grandes stars du golf et rencontrer les golfeurs un rien macho de Pebble Beach Golf sur Saturn. Notez au passage les chaussures de mauvais goût. Bon, c'est gênant de dire ça parce que les guignols, vous comprenez, c'est quand même un peu chez nous. Mais après tout, puisque tout le monde le dit, je ne vois pas pourquoi on se priverait. Le CD-ROM des guignols est vraiment très chouette. Les guignols qui ne font rien comme tout le monde avaient d'abord sorti une version Mac, et voilà qu'arrive enfin la version PC. Il était temps. Engagé comme reporter à la World Company, vous allez devoir, avec votre petite caméra, fouiner dans la vie privée des marionnettes à la recherche de scoops juteux. Une occasion unique de découvrir les habitudes, les habits et l'habitat de chaque individu. Même si on se régale vraiment en découvrant leurs objets personnels, leurs voix ou leurs photos, on voit finalement assez rarement les marionnettes elles-mêmes. Mais c'est encore plus jouissif pour le vrai fan qui passera son temps à décoder avec d'autant plus de délectation le moindre petit clin d'œil. Bref, avec ce soft, le décodeur, c'est vous et ça fait du bien.
Chez toi, il est encore temps.
Désolé, messieurs, on ferme.
Bon, worms, ce sont des asticots, pas des insectes. Mais des fois, les asticots, ça se transforme et c'est déjà aussi bête et méchant que les insectes. Ou alors, ça porte une banane et ça vit comme les mousses dans des endroits peu ragoûtants. Ces insectes, longtemps considérés comme fragiles et sans défense, acquièrent une autre dimension dans le jeu vidéo. Obstacles ou acteurs de second rôle, ils peuvent parfois être les héros d'une aventure palpitante. Avez-vous eu un jour l'envie de jouer à Maya l'abeille et parcourir le monde secret des insectes qui vivent parmi nous et que nous connaissons peu? Ou jouer à Zool, la fourmi dans un univers qui vous rappellera le temps où vous lisiez le voyage de Gulliver? L'univers du jeu vidéo mélange bien les genres. En cherchant bien, on peut trouver au milieu des jeux de baston et de tir quelques jeux de réflexion. La fourmi a longtemps hanté l'imagination de l'homme, mais rien à voir avec Phase 4 ou l'invasion des fourmis géantes. Dans le monde du jeu vidéo, elles sont gentilles et nous incitent à la réflexion, voire à l'étude du comportement. Car la place d'une fourmi est dans sa fourmilière, non ? La mise en scène des insectes nous éloigne des simulations classiques. L'humour est souvent là pour cacher la dure réalité d'être un insecte. Victimes, elles doivent survivre dans un monde où le gigantisme est omniprésent, où la violence est reine. Eux, ils en savent quelque chose, toujours là pour se faire écraser, si ce n'est pas le temps ou l'espace qui s'occupe d'eux. Mourir sans savoir qu'ils étaient là. Heureusement, elles peuvent être les héros d'un jour, comme cette énorme puce. Qui aurait dit que ces insectes que nous haïssons tous pourraient prendre vie et devenir des Siegfried des temps modernes?
Wow.
Finalement, les jeux vidéo ont-ils détourné la vie des insectes? Peut-être pour se venger de la vie que nous leur menons? Jusqu'à aujourd'hui, les CD-ROM musicaux n'ont jamais poussé très loin l'interactivité, proposant au mieux un jeu simpliste, au pire un catalogue promotionnel. Mais Quest for Fame marque une nouvelle étape. Cette fois, le joueur est totalement impliqué dans une aventure réaliste et captivante. Pour jouer, c'est simple, taper en rythme en suivant les petites barres vertes qui s'affichent au bas de l'écran à l'aide d'un médiator fourni avec le jeu. Mieux vous jouez et plus vous marquez de points qui s'affichent dans la petite fenêtre en bas à droite. Le médiator peut s'utiliser en tapant sur une table ou en grattant sur une raquette de tennis. Pour l'instant, la sortie de la guitare virtuelle vendue aux États-Unis n'est pas prévue en France. Quest for Fame est donc un vrai jeu avec ses trois niveaux de difficulté, sa dizaine de lieux à visiter et ses options pour paramétrer distorsion ou niveau sonore. L'humour n'est pas absent. Votre mère vous prend la tête, allumez la télé et vous verrez le Nagui local présenter un jeu télévisé.
Remember, the more you shed, the more you shred. Later, dude. It's the road.
Lors de vos premières répétitions, si vous faites suffisamment de points, un producteur viendra vous chercher dans le garage du voisin en vous promettant gloire et fortune. Malheureusement, tous les dialogues sont en anglais. Un sous-titrage n'aurait pas été de trop, d'autant que les dialogues sont vraiment drôles. Lors de votre premier concert, par exemple, une bande de Hells Angels vous interrompt en vous demandant gentiment de jouer leur hymne Born to be Wild. Plutôt convaincant, non? Allez, faut y aller. Si vous n'avez pas travaillé la chanson lors du show télévisé, comme c'est le cas ici, voilà ce qui se passera. Ils vous enverront illico accompagner un chanteur ringard dans un bar miteux. Bon, même s'il ne demande que des notions rythmiques, Quest for Fame n'est jamais lassant. Tiens, voilà comment se passe le jeu télévisé. Vous écoutez un riff, et c'est ensuite à votre tour de le jouer. Vient ensuite le verdict.
You're cooking today.
Dans Quest for Fame, pas besoin d'être vraiment musicien. Simple et évolutif, le jeu vous gardera scotché jusqu'au dernier niveau, où là, summum des summums, vous jouerez avec le groupe Aerosmith devant 90 000 personnes. À vous d'assurer.